Yo, c'est Jordan, CMO de Germinal, et vous écoutez Conquête, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui font le marketing d'aujourd'hui et qui s'aventurent à la conquête de nouveaux marchés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, mon invité est Jean Abasque, International Growth Manager chez PixP. Est-ce que ça va, Jean ?
Ça va et toi ?
Ça va, super. Alors, est-ce que tu peux, pour commencer, nous présenter PixP ?
Ouais, alors PixP, c'est une carte Mastercard pour les 10-18 ans, donc pour les ados, et c'est une carte qui est utilisable partout dans le monde avec les fonctionnalités d'une carte de paiement pour adultes, et on propose aussi deux apps, une pour les parents et une pour les ados, qui permettent de gérer l'argent de poche en temps réel et qui proposent aussi des petits outils qui sont utiles pour les parents, que ce soit pour aider dans l'éducation et la prise en main d'un budget par un ado, et aussi pour les ados, du coup, des petits outils qui leur permettent d'épargner de l'argent, qui leur permettent de gagner des sous. Voilà, c'est deux apps à destination de ces deux utilisateurs.
Ok, super. Vos concurrents principaux sur le marché, c'est quoi ?
Alors, il y a deux types de concurrents. Il y a les banques tradies qui proposent des cartes pour ados généralement à leurs clients. Et on a également des néobanques qui se sont développées dans les derniers mois, qui sont pour les nommer, qui sont des cartes ou des Xalis et qui adressent le même marché que nous.
Ok, on est d'accord que tout ce qui est banque, tradi, etc., elles n'ont pas des solutions qui sont parfaitement adaptées, mais elles arrivent quand même à faire le taf, on arrive à bricoler un truc, et puis ça remplit le job, c'est un peu ça le truc, hein.
Bah, ça a été un peu ça le constat, oui, c'est que les banques tradi, elles adressent le marché des ados, finalement un peu avec les mêmes propositions de valeur que ce qu'elles ont pour les adultes. Or, on est sur un marché qui est différent, qui a des attentes qui sont différentes, et donc c'est là que nous on propose un produit qui est bien plus qui est fait pour les ados et pour leurs parents et qui n'est pas fait pour des adultes.
Ok. Tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle chez PixP ?
Ouais, alors mon rôle, moi j'ai été recruté il y a 4 mois par PixP et mon rôle c'est de piloter la stratégie d'acquisition de nouveaux abonnés sur le produit.
Ok, donc on est d'accord que quand tu parles d'abonnés, c'est les parents qui s'abonnent.
Exactement. Donc en fait, on a un souscripteur qui est le parent, c'est lui qui paye l'abonnement. Et on a également un utilisateur qui est l'ado, qui peut être le prescripteur du produit. Donc on a cette dualité, on a ces deux cibles à travailler en marketing.
Ok, et du coup, d'un point de vue stratégique, comment vous arrivez à gérer ça ?
Bah, ça fait deux cibles à travailler. On est encore en plein test sur quelle est la meilleure approche. Est-ce que c'est de parler aux ados et de leur proposer notre produit ? Est-ce que c'est de parler aux parents et de leur dire que notre produit il peut leur être utile, il peut faciliter leur quotidien. Et aujourd'hui, on est encore en plein test sur les deux et on travaille les deux parce que les deux nous apportent des résultats qui sont satisfaisants.
D'accord, ok. Vous avez une team sales ?
Non, on est un pur produit B2C, produit de masse. Donc on cible, on n'a pas d'équipe sales pour travailler des potentiels leads, par exemple.
Ok, donc tout ce qui va être activation, onboarding, c'est un enjeu hyper clé pour vous ?
C'est hyper clé et très automatisé. C'est-à-dire qu'on a des volumes qui sont trop importants pour pouvoir gérer par exemple des demandes d'informations avec une équipe sales. Donc tout est automatisé pour pouvoir travailler nos séquences de nurturing. Et on a plusieurs types d'automatisation. Ça peut être soit des abandons de panier qu'on va aller retravailler avec des messages et par exemple des emailing, et ça peut également être du lead nurturing. Donc on va essayer de capter les emails de parents par exemple qui seraient potentiellement intéressés par combien d'argent de poche donner à des ados ou par le téléchargement d'un guide sur l'argent de poche, et derrière on va avoir des séquences automatisées qui vont avoir pour but de convertir ces parents en nouveaux abonnés.
Ok, donc là, par exemple, l'exemple que tu donnes sur le calcul du budget pour les parents, en fait, ce que vous essayez de faire, c'est vraiment d'identifier des éléments qui peuvent... c'est des éléments qui permettent d'identifier les personnes qui ont un intérêt pour tout ce qui est finance pour les ados, gestion de l'argent de poche, etc.
Exactement. On a plusieurs niveaux dans la qualification d'un lead ou d'un prospect. C'est d'abord, il faut qu'il soit parent d'ado. Il faut qu'il ait des enfants entre 10 et 18 ans. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape de qualification, c'est effectivement, est-ce que ce parent est intéressé par l'argent de poche ou se pose des questions sur combien est-ce qu'il devrait donner. Et nous, c'est un indicateur de qualité et d'intérêt pour le produit qu'on peut leur proposer.
Comment vous faites actuellement pour savoir si les gens ils sont parents d'ado?
Alors, on a on a un canal qui est Facebook et qui nous permet aujourd'hui de cibler ce genre de situation familiale. Et sinon, ce qu'on utilise, c'est notre contenu. Et typiquement, la mécanique de combien d'argent de poche devrais-je donner à mon ado, c'est une mécanique qui permet, un, de capter un lead, et deux, qui permet automatiquement d'identifier quelqu'un.
Oui, de filtrer, ouais.
De filtrer sur les parents d'ado.
Ok. Ouais, donc votre contenu se doit d'être hyper spécifique pour permettre à la personne, en fait, de tout de suite savoir que ça la concerne, et vous, de votre côté, de faire le filtre et de se dire, ok, de toute façon, la personne qui est en train de télécharger le sujet, c'est forcément quelqu'un qui fait partie de notre cible.
Exactement. C'est le contenu qui fait le boulot au niveau de la segmentation pour nous.
Ok. Et du coup, est-ce que, vu que vous travaillez sur le contenu, est-ce que vous avez une stratégie SEO?
Oui. Alors, on a deux piliers SEO. Un qui est de générer du contenu qui est recherché. Or, on est sur un marché qui est très jeune, sur lequel il y a très peu de recherches. Par exemple, banque pour ado ou carte bancaire pour ado, qui sont a priori des termes hyper stratégiques pour nous, sont très peu recherchés parce que les parents ne savent pas forcément que des solutions existent. Donc, on a un devoir d'évangélisation avant de faire du SEO, mais on commence le travail quand même parce que ça peut prendre plusieurs mois et on se dit que tout ce qu'on fait aujourd'hui en SEO, on le récupérera sûrement dans les prochaines années. Ça, c'est la première partie au niveau du contenu. Et la deuxième partie, c'est du contenu qui n'est finalement pas SEO, mais plutôt du contenu qui va nous permettre qui va être distribué sur nos plateformes comme Facebook ou Instagram. Et c'est du contenu, par exemple, sur l'éducation des enfants, sur la relation entre les parents et les ados, qui va être beaucoup moins dédié à du positionnement sur Google et à répondre à un volume de recherche, mais qui va nous permettre à évangéliser, justement, qui va nous permettre de créer un premier contact entre des parents ou des ados et la marque Pixpay.
Ok, si je reformule... dis-moi si je me trompe, mais du coup, la première stratégie, là où vous cherchez vraiment à vous positionner, c'est vraiment un objectif de ROI, même si vous savez que le retour sur investissement, il risque d'être de se faire dans la durée, puisque actuellement, c'est un nouveau marché, c'est ça? Et le deuxième, c'est plutôt du branding, histoire de crédibiliser la mission, d'affirmer la mission, les enjeux pour vous et votre expertise.
Exactement ça.
Ok. Vu qu'on est sur des sujets de branding, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi mesurer l'impact de votre branding et en plus de ça, on est à un moment donné où, du coup, de votre côté, niveau branding, il s'est passé un peu des choses. Mais du coup, comment est-ce que vous travaillez ça?
Alors, le branding, c'est un sujet, ça a été l'un des premiers recrutements au market qui a été fait. Ça a été de recruter une équipe branding solide parce que on est obligé de se faire une place dans l'écosystème de la finance ou dans l'écosystème média pour justement évangéliser. On a ce devoir là qui est d'avoir un porte-parole, d'être présent auprès des parents et auprès des ados. Et la mesure aujourd'hui, on est tout jeune. On a été lancé il y a moins d'un an Et donc, la mesure, elle est assez immédiate et assez simple sur, par exemple, les termes de, le nombre de requêtes qui sont faites sur notre marque. Aujourd'hui, nos actions branding, que ce soit en RP, les quelques passages télé qu'on a eus, ou par exemple des campagnes Facebook, on arrive à voir l'impact assez facilement sur nos requêtes marques et sur le trafic sur le site. On n'a pas encore atteint ce niveau de un volume régulier de par exemple de trafic sur notre site ou de nouveaux abonnés suffisamment important pour que on soit obligé d'avoir des mesures plus fines que cet indicateur de nombre de requêtes sur notre marque, par exemple.
Ce qui est déjà un bon indicateur, en effet.
Oui.
Vous faites pas d'études de noto ou ce genre de choses?
Non, on n'en a pas encore fait.
Ok, c'est dans les plans?
Ça va sûrement être dans les plans. On va avoir peut-être des projets de branding plus de masse en passage télé, par exemple, ou des projets plus importants qui nous donnent envie aussi de bien mesurer. Et donc, pourquoi pas faire des études de noto, que ce soit sur Facebook ou que ce soit via des vraies études de noto plus précises et plus poussées.
Ok. Du coup, tu disais comme quoi vous faites quelques actions en offline. Tu peux nous en parler?
Ouais, on fait quelques actions. On est beaucoup dans le test and learn. On essaye de faire des petites actions en offline. On a par exemple essayé de faire quelques événements comme pour le World Cleanup Day, qui était le jour de l'environnement. On a essayé de mobiliser un petit peu les équipes en interne et aussi un petit peu de clients, de prospects pour se donner rendez-vous et faire ce genre d'OP qui derrière sont relayés sur nos réseaux. Sinon, on travaille sur le RP et on essaye d'être présent à la télé, dans les journaux, sur les blogs, dans la presse, parce qu'on croit dans notre produit et qu'on a envie que le plus de monde possible parle de nous. Et c'est à peu près tout pour le offline. On reste concentré beaucoup sur le online encore aujourd'hui.
Ok. Vous n'avez pas fait de campagne métro, d'affichage, ce genre de choses?
Non plus. Non plus. Pas encore.
Ok. Et sur tout ce qui est presse et télé, par exemple, vu que vous avez deux cibles, vous faites l'effort sur quelle cible en priorité?
La priorité pour nous aujourd'hui, c'est le parent. Pourquoi? Parce que le parent, il est plus proche de la conversion. C'est le parent qui paye in fine. Donc, la priorité, elle est mise sur le parent. C'est lui qui décide. Mais on se rend compte que l'ado, c'est un prescripteur qui a beaucoup d'influence et qui aussi coûte moins cher, entre guillemets, parce que les ados sont moins sollicités par la publicité en général. Et donc, l'espace, il est un peu plus libre que sur les parents. Donc, même si le parent est pour nous la cible la plus importante, l'ado, c'est hyper important pour nous aussi de le travailler parce que c'est lui qui va utiliser le produit et que les coûts sont relativement moins chers que sur les parents.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un point qui est important, c'est, comme tu disais, les ados sont pas autant sollicités que ça. Et puis, s'ils sont sollicités, c'est par des marques en fait qui les abordent comme des consommateurs lambda, là où vous, effectivement, c'est le cœur de votre cible et c'est l'utilisateur final du produit. Et vous avez un produit qui ne s'adresse pas à d'autres cibles qu'eux. Donc, je veux dire, le sentiment d'inclusion dans l'offre, etc., est assez dingue. Et puis, l'offre en tant que telle, pouvoir se dire qu'on sort de l'argent de poche classique donné en petits billets comme ça et avoir une carte qui permet notamment de faire des achats en ligne, etc., ça change quand même pas mal la vie. Je pense que le besoin, il est vite identifié par la cible, quoi.
Ah, il est hyper vite identifié, ouais. Les ados qui franchissent le pas grâce aussi à leurs parents sont hyper contents parce que ils ont accès à un moyen de paiement qu'ils peuvent effectivement utiliser partout en ligne, chose à laquelle ils n'avaient pas accès avant. Il n'y a que 15% des ados en France qui sont équipés d'une carte. Donc les ados ne savent même pas quel est le potentiel finalement pour eux. Et nous, c'est tout ce qu'on essaye de leur faire passer comme message, tout ce qu'on essaye de leur montrer, tout ce qu'ils pourraient faire avec une carte. Mais c'est ça qui est compliqué aussi, parce que c'est quelque chose auquel ils n'ont jamais eu accès. Et donc, on a du mal à leur faire comprendre qu'ils pourraient payer en ligne, qu'ils pourraient payer leur McDo sans contact. Enfin, on a un gros sujet là-dessus. Et le jour où les ados seront nos plus grands prescripteurs, ben on aura aussi gagné, parce que on n'aura pas forcément besoin d'aller convaincre le parent derrière.
Oui, puis ça prouvera aussi que la solution, elle est comprise et elle est, elle est vraiment comprise par l'ado, et il n'y a pas besoin de faire tout le travail d'évangélisation que vous êtes aujourd'hui en train de faire, quoi.
Exactement.
Ok, très bien. Là, vos objectifs à vous au market, c'est quoi ?
Les objectifs, ils sont hyper précis. C'est le volume de nouveaux abonnés toutes les semaines.
Payant ?
Non. Aujourd'hui, on est sur un. Étant donné qu'on a une volonté d'évangélisation, aujourd'hui, on a du mal. On va peut-être parler attribution un peu après, mais. Aujourd'hui, on a du mal à finalement attribuer, par exemple, toutes nos dépenses publicitaires en post-click, par exemple, en attribution post-click, donc avec un clic et une conversion qui se passe juste après le clic. On a du mal à avoir ce schéma-là. On a un schéma qui est beaucoup plus long, parce que prendre une carte pour son ado, ça nécessite réflexion. C'est pas un achat impulsif. Et donc, on a du mal à attribuer finalement nos conversions à nos cadeaux payants. Donc aujourd'hui, on fonctionne encore au global avec des objectifs sur le nombre de nouveaux abonnés, quel que soit le canal d'acquisition, que ce soit gratuit ou payant.
Mais il faut que ce soit un abonné qui paye sa carte, c'est ça que je voulais dire.
Ah, pardon. Oui. Un abonné, c'est quelqu'un du coup, qui va payer sa carte et qui va payer son premier mois d'abonnement
okay.
À 2,99€.
Ok. Je voulais poser une question, c'était par rapport aux parents. Oui, est-ce que vous identifiez que, par exemple, il y a soit une saisonnalité, soit qu'il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres. Typiquement, vous voyez que c'est un cadeau d'anniversaire sympa, c'est un cadeau de Noël sympa, ce genre de choses.
Étant donné qu'on a à peine 12 mois d'existence.
Oui.
La saisonnalité, pour l'instant, elle a été assez compliquée à appréhender.
Oui.
Notamment parce qu'on grossit aussi beaucoup. Donc,
bah oui.
Ça a été assez difficile.
Ouais, vous pouvez pas savoir si c'est un effet de la saison ou simplement lié à un effort que vous avez fait, en fait.
Oui, exactement. Par contre, on a deux, pour l'instant, on a eu deux pics. Un qui est à la rentrée. Donc, retour des vacances, c'est la rentrée.
Et
c'est vrai que notre produit a été vachement mieux reçu, et ça s'est ressenti sur nos CAC. Les coûts d'acquisition de nouveaux clients ont été les meilleurs pendant la rentrée, donc du 25 août au 15 septembre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que on voit qu'il y a des moments. Et le deuxième bon moment, c'est à la fin du mois, ou entre la fin du mois et le début du mois tous les mois, parce que c'est un moment où tous les parents qui donnent de l'argent de poche le donnent soit de manière hebdomadaire, soit une fois par mois. Et on se rend compte que la fin du mois et le début du mois sont aussi des bonnes périodes pour intensifier nos dépenses marketing, parce qu'on a des meilleurs retours.
Intéressant. Et en même temps, tout à fait logique, et effectivement.
C'est aussi ce qu'on se serait dit.
Ouais. En online, c'est quoi les canaux que vous utilisez ?
En online, donc je différencie les parents et les ados, mais c'est social ads à fond. Donc pour les parents, c'est du Facebook. Et côté ados, on utilise Snapchat, TikTok et Instagram.
Ok.
Et on a un dernier canal online qui s'ajoute, c'est le search sur Google. Mmh. Parce que bon, malgré le faible volume de requêtes, il y en a quand même un petit peu. Et donc, on maximise nos chances en étant présent sur les requêtes du type banque pour ado, carte bancaire pour ado.
Oui, et puis il faut absolument que les personnes qui tapent ce genre de requêtes sachent que vous êtes là, quoi.
C'est sûr. Là, on n'a pas le... On est obligé d'être là.
Mmh, bien sûr. Et donc, pourquoi les parents, vous n'allez pas sur Insta, par exemple ?
Parce que le parent, c'est une cible qui est entre 35 et 50 ans. Et l'utilisation d'Instagram, elle est faible.
Ok.
Cette tranche d'âge.
Et donc, vous vous êtes mis à TikTok. C'est le grand truc. Comment est-ce que vous gérez du TikTok? Vous faites du payant? Vous faites de l'organique? Comment vous y prenez?
Alors, on fait les deux. Aujourd'hui, l'organique, il est pas du tout générateur de business et de conversion pour nous. Parce qu'on fait des challenges. On crée des...
Vous jouez le jeu de TikTok, quoi.
On joue le jeu à fond. Et il y a quelques posts qui marchent très bien, qui sont likés 100 000 fois, on ne comprend pas trop pourquoi.
Ah ouais, quand même.
Sans vraiment comprendre, parce qu'on a fait le bon contenu au bon moment, la sauce prend. Mais pour autant, ça ne va pas nous générer, en tout cas de manière immédiate, des retours qu'on peut mesurer. Peut-être que sur le long terme, et c'est pour ça qu'on continue aussi, on veut utiliser TikTok pour ce qu'il est. Donc sur le long terme, on se dit que ça paiera un jour. En tout cas, on ne prend pas de retard en le faisant.
Et oui, non, là, ouais.
Donc il y a cette partie organique et on fait aussi du paid, où là on a des retours parce qu'on a du contenu qui est similaire à celui qu'on pourrait diffuser sur Instagram ou même sur Snapchat, qui est vraiment très orienté conversion, donc qui fit pas très bien finalement avec le canal TikTok, mais qui en tout cas pour l'instant génère des conversions. Voilà.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire en termes de budget, parce que là du coup j'imagine que c'est quand même un peu le casse-tête, mais en termes de budget, est-ce que tu peux nous dire en gros le split que vous avez entre parents et ados, et entre du offline, du online, un peu les canaux principaux?
Oui, du coup le split il est majoritairement sur les réseaux sociaux, donc ça va être du 80-85% pour les parents sur Facebook uniquement.
D'accord.
Et on va avoir 5% sur les ados répartis sur Snapchat, TikTok et Instagram. Et pourquoi est-ce que le budget il est si en termes de proportion si faible sur les ados, c'est notamment parce que le coût de diffusion chez les ados, il peut être jusqu'à entre 5 et 10 fois moins cher que sur les parents. Mmh. Donc, c'est ce qui explique la faible proportion côté ado. Et le reste, ça va être dépensé sur le search. Donc, les 10% restants vont être dépensés sur le search.
Mmh. Oui, parce que c'est vrai que Snapchat, ça peut facilement être 10 fois moins cher que Facebook.
C'est ça. Déjà que naturellement, ces réseaux-là sont moins chers. En plus,
en ayant la bonne cible, ouais.
Le client qui est moins sollicité, du coup, ça donne des CPM, des coûts pour diffuser sur 1000 personnes, beaucoup plus faibles.
Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous gérez le passage de l'idée à l'exécution en termes de process?
Oui, alors ça va assez vite. On n'a pas beaucoup de process en place. Et d'ailleurs, c'est plutôt mieux comme ça parce que ça nous permet d'avoir plein d'idées, de les mettre en place, de les tester et de les mesurer. Et du coup, le passage, c'est souvent une idée qui vient soit de nos clients, parce que nos clients, c'est les premières personnes avec qui on discute pour savoir comment fonctionne le produit, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, soit avec des squads, ce qu'on appelle des squads, ça va être un peu des ambassadeurs, ça va être des focus group avec des parents, avec des ados. Par exemple, on va leur faire tester notre app, où on va leur poser des questions sur leurs habitudes pour voilà, pour pouvoir faire émerger des idées. Et troisième source un peu d'idées, c'est en interne. C'est on bosse tous sur le produit, on s'est tous intéressés à nos cibles. Il y a même des parents, dans les équipes. Donc en interne aussi, on a des intuitions, des idées qu'on challenge. Et donc le passage de ces idées-là à la mise en place, il va être assez rapide sur un petit peu de déblayer ce qu'on a niveau données, qui permet de faire le point sur où on en est, quelles pourraient être les améliorations. Et ensuite, on va pas mal brainstormer sur qu'est-ce qu'on met en place. Et ensuite, on teste, on mesure et soit on reteste, soit on valide, par exemple, un test qui a été probant.
Ouais, donc c'est vraiment la boucle du process growth, c'est on fait nos hypothèses, on priorise, on fait le test, on analyse, on continue comme ça. Exactement. Soit on affine parce qu'on voit que les résultats sont bons, soit on se dit ah non là c'est pas bon, on retourne sur les hypothèses de départ, on voit comment changer, c'est vraiment ça quoi.
C'est ça, et c'est en continu.
Ok.
Et c'est pour ça que le fait qu'il y ait finalement peu de process, ça favorise les idées et ça favorise leur mise en place rapide.
Ok. Tu parlais du fait que ben voilà, c'est important de rester au contact. Enfin, vous mettez en place des choses pour rester en contact des gens. Là, ce que tu disais, par exemple, les focus groups, etc. C'est en physique. Les gens viennent directement dans vos bureaux ou c'est à distance. Comment ça se passe?
On fait les deux. Bah, la période veut que les réunions un peu physiques sont de plus en plus rares. Donc on fonctionne vachement avec WhatsApp. On a des groupes WhatsApp avec les ados. On a des ambassadeurs parents aussi qui sont sur des groupes Facebook. Voilà, on est très, très digital dans notre approche focus group.
Ok, et vos ambassadeurs, c'est des personnes que vous rémunérez?
On les appelle ambassadeurs, mais ce sont nos premiers clients, nos premiers users. Ce sont également des parents qui sont très impliqués dans les feedbacks, par exemple, qu'ils peuvent nous donner. Et on leur propose d'intégrer ce cercle des parents qui derrière nous font leur retour quand on a des questions, on leur pose et ça nous aide beaucoup pour parfois pour trancher, pour prendre des décisions. On les consulte et c'est toujours un plaisir d'avoir leur retour.
C'est genre des power users en fait.
Exactement, c'est ça.
Ok. Ok. Et à part donc ces focus group, etc., comment est-ce que vous faites au quotidien, ou même toi, comment tu fais au quotidien pour être sûr que tu continues d'être au contact des clients, de leur apporter le plus de valeur possible, de comprendre c'est quoi leurs besoins?
Ouais. Alors plusieurs choses. Étant donné qu'on dépense la majorité de notre budget sur les réseaux sociaux. Et sur Facebook et sur Insta, on a la chance d'avoir des commentaires sous les pubs qu'on fait. Donc on analyse beaucoup les commentaires pour savoir est-ce que déjà nos publicités sont bien reçues et est-ce que les messages qu'on passe à l'intérieur, qui sont soit des fonctionnalités produits, soit des bénéfices que peuvent tirer nos audiences cibles, on vérifie, on fait un sanity check de est-ce que les commentaires sont positifs. Donc ça c'est une chose et on essaye aussi de on l'a développé là récemment, de faire un vie-ma-vie avec les customer happiness, c'est leur nom chez nous, ceux qui s'occupent de gérer la vie d'un client chez PixP quand il a une question, un problème et les équipes marketing font aussi un vie-ma-vie avec ces gens-là chez nous pour comprendre un peu plus quelles sont les demandes des clients, qui sont-ils et comment est-ce qu'on peut leur apporter les réponses à leurs questions.
Ok. Le vie-ma-vie, ça prend quel format? C'est vous vous mettez au poste de la personne qui gère ce rôle et c'est vous qui répondez aux emails, aux demandes entrantes, etc.?
C'est ça, on se met sur une après-midi. Une après-midi, on passe toute l'après-midi avec la personne en charge de la relation client et à côté d'elle au début, et en fin de journée, on commence à prendre le téléphone et à également envoyer des emails.
Ok, et donc ça, c'est à quelle fréquence, tu disais?
Ça, pour l'instant, on a fait un one-shot Pour que tout le monde, voilà, pour que tout le monde puisse se rendre compte des vraies problématiques de nos abonnés. Et ça va être reproduit. On est plutôt content, donc ça va être reproduit dans le futur.
Il y a combien de personnes actuellement chez Pixpay?
On est une petite trentaine.
Ok, et dans l'équipe market, vous êtes combien?
On est 10.
D'accord, oui, donc ça représente quand même une bonne partie de l'effectif, la partie market.
C'est ça.
Et au niveau des rôles, ça se répartit comment?
Au niveau des rôles, on a trois grands pôles. On a les partenariats. On fait des partenariats parce que déjà, sur notre produit, on a un système de cashback, un programme de cashback qui est proposé à nos ados clients. Donc, quand ils dépensent, par exemple, une place de ciné chez Pathé Gaumont, ils vont avoir 10% directement reversé sur leur carte. Et on a des partenariats aussi de visibilité et d'acquisition. Avec des marques qui cibleraient des audiences similaires aux nôtres ou complémentaires aux nôtres. Et donc, on a le partenariat, on a le pôle brand, où il y a 5-6 personnes. Et le pôle brand s'occupe principalement de tout ce qui est réseaux sociaux, événementiel, offline. C'est à peu près les missions. Influence aussi, on n'en a pas parlé. On essaye de faire.
Ah oui, exactement. Je voulais en parler en plus.
Et donc, on a la partie acquisition grosse qui s'occupe, qui a un KPI, enfin deux KPI principaux, le volume de nouveaux abonnés et le coût auquel on les achète comme objectif.
Ok. Donc, deux points. Le premier, c'est effectivement, il va falloir qu'on revienne sur l'influence parce que j'imagine, c'est un point que je voulais aborder tout à l'heure en plus, puis j'ai complètement zappé. J'imagine, au vu de la cible, notamment au niveau des ados, qu'il y a des choses à faire au niveau de l'influence. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Sur l'influence?
Ouais.
Alors, l'influence, on y croyait beaucoup. Enfin, on y croit toujours beaucoup. Mais c'est un levier qu'on n'a pas craqué. Du tout.
D'accord.
Que ce soit côté parent ou côté ado, on a testé des choses. On a testé des choses avec des objectifs différents. Le premier, ça a été de générer de la croissance instantanée, donc des nouveaux clients. La deuxième, ça a été plutôt de construire une communauté, donc grossir le nombre d'abonnés à nos pages. Et sur les deux objectifs, on a du mal. On a du mal parce que on a quelques idées de pourquoi ça marche pas, mais pour l'instant on a travaillé avec des influenceurs de tailles différentes. Ça va de 20 000 à 150 000 followers, mais de manière assez irrégulière. Donc on a fait une OP, une ou deux OP par mois grand max. Donc ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que si ça prend pas, c'est aussi peut-être par manque de régularité. Et donc, c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler dans les prochains mois.
Ok. Et pour travailler avec des influenceurs, vous passez par des plateformes, ce genre de choses, ou alors vous gérez en direct avec eux?
Les deux. On fait les deux. Donc, je m'en occupe pas en direct, donc je vais pas être hyper précis là-dessus. Mais je sais qu'on passe par ce qui s'appelle des agents ou des agences, ouais. qui ont des influenceurs sous contrat. Mais on passe également en direct parfois. Parce que soit les influenceurs n'ont pas intégré d'agence, soit parce qu'on savait pas qu'ils étaient dans une agence et on passe en direct avec eux.
Ok.
Sur des missions hyper courtes, ça va être quelques jours maximum ce qu'on leur propose.
Ok, d'accord. Les partenariats que vous mettez en place, notamment pour le cashback, même pour ce genre de choses, vous n'avez pas d'équipe sales, comment ça se gère?
Non, on n'a pas d'équipe sales. Il y a une seule personne chez nous qui s'en occupe. Et elle a beaucoup de travail.
Oui, j'imagine.
Elle gère ça un petit peu comme une sales parce que elle utilise HubSpot, par exemple, pour pouvoir gérer sa prospection, pour pouvoir gérer, son funnel de conversion. Mais elle est toute seule. Mais effectivement, on utilise des outils sales.
Mm. Ok, d'accord. Très bien. Tu disais comme quoi vous avez beaucoup d'espoir sur l'influence et puis que finalement ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça de leviers de croissance que tu y croyais vraiment et puis en fait ça marche pas du tout, ou inversement des leviers tu y croyais pas vraiment et puis en fait ça casse tout?
Oui, bah, l'influence, c'est vraiment le levier auquel on croit, et enfin on croyait et on continue à y croire. Donc c'est vraiment ça l'exemple dans ce qui marche pas, en tout cas actuellement pour nous.
Ouais.
Et dans ce qui fonctionne bien, et qui est plutôt une surprise, c'est notamment le test qu'on a fait avec Germinal. On a travaillé avec vous sur un sujet, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de la lead gen avec du nurturing en automation suite à la génération du coup du lead email côté parent. Sur ce fameux calculateur d'argent de poche. C'est vrai qu'une mécanique de lead puis nurturing, on a tendance à penser que c'est plutôt du B2B derrière avec des sales qui vont venir qualifier des leads, qui vont venir répondre aux objections, qui vont travailler vraiment en mode nurturing. Et ça, à ma surprise, ça a vraiment bien fonctionné. Et côté parents et côté ados, d'adapter du coup une stratégie B2B à une problématique B2C.
Ouais, je me souviens effectivement qu'en plus de ça, dans la mission qu'on avait effectuée, c'est arrivé un peu tard l'idée, c'est arrivé vers la fin. Et en fait, je me souviens pour la petite anecdote que du coup, on avait fait une connexion avec Zapier. Et que, en 24 heures, on avait dû upgrader notre compte Zapier parce que ça avait été la vague, en fait, de gens qui voulaient, je me souviens, c'est un calculateur, hein, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'est, moi, j'étais pas encore là quand,
ouais.
Mais, du coup, je l'ai repris un peu plus tard, et c'est un calculateur qui propose aux parents, qui est très simple, une pub sur Facebook qui dit, calculer, combien vous devriez donner à votre ado en fonction de son âge et de votre région. Et énormément de parents veulent savoir la réponse qu'on peut leur donner. Donc ça a généré beaucoup de leads. Et on a fait la même chose côté ado du coup. Et ça a été encore le volume a été encore plus important côté ado parce que les ados ont pas cette phobie, j'ai envie de dire, de laisser son email ou de laisser son numéro de téléphone.
Ouais.
Ils sont assez cool avec ça. Donc on a eu des résultats encore encore meilleurs sur les ados.
Et c'était toujours la même mécanique, combien vous devriez recevoir?
Non, c'était plutôt, on a joué sur la comparaison, et compare combien tu as par rapport aux autres.
Oui, mais en même temps, c'est normal que là, c'est normal qu'ils laissent leur adresse d'email. La curiosité, elle est folle là.
Exactement. On joue beaucoup sur la curiosité, on joue beaucoup côté ado sur un marketing qui titille la curiosité ou qui,
ouais.
on veut qu'ils se posent la question de c'est quoi Pixp, comment ça marche, qu'est-ce que je pourrais avoir avec eux.
Oui, il y a un côté un peu décomplexé et puis ça touche le sujet de l'argent. Je pense que quand on est ado, c'est un sujet qu'on commence à un petit peu à appréhender. Donc, ouais, je peux comprendre que, ouais, c'est parfait.
Autant les ados sont décomplexés, autant nous qui faisons du marketing pour les ados, ça nous décomplexe aussi vachement. Parce que
clairement.
Les codes sont moins stricts. C'est beaucoup
plus facile. Et puis, d'une certaine manière, je veux dire, vous leur apportez beaucoup de valeur. Enfin, je veux dire, compare ton argent de poche versus ce qui se fait dans ta région, par exemple. Je veux dire, c'est des choses qui sont quand même hyper hyper intéressantes, même pour l'ado, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un gros apport de valeur.
Et c'est pas uniquement une réponse, c'est aussi derrière l'ouverture d'un sujet de discussion avec leurs parents.
Tout à fait, tout à fait.
La discussion se poursuit même après. Nous, on appelle ça une mécanique de lead, mais on entre par l'argent de poche dans l'éducation et dans la relation parent-ado.
Oui, là c'est vraiment une mécanique. Ce que vous cherchez à faire au-delà du lead, c'est vraiment de l'engagement. Enfin, là on est vraiment sur le cas typique de l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a un engagement auprès de la marque, mais il y a aussi un engagement auprès des autres dans la vraie vie, dans le réel, quoi.
C'est ça.
Ok. Je reviens sur la team. Vous travaillez avec des prestats ?
Très peu.
Enfin, du coup, tu as mentionné Germinal,
oui.
Mais vous travaillez avec d'autres prestats ?
Très peu, parce que l'équipe marketing est quand même bien staffée, on est 10. Et on travaille uniquement avec des prestats sur le contenu, parce que c'est la compétence qu'on n'a pas en interne et de toute façon qu'on n'aura pas. Donc on passe par des agences, on passe notamment par Com sur la création de contenu.
Ils font de la vidéo, c'est ça ?
Oui.
Ok, je vois. Très bien. Et donc, oui, mais du coup, c'est vraiment, vous faites appel à eux sur des moments un peu ponctuels, hein, c'est ça ?
C'est ça. Mais de plus en plus, étant donné ça fait un an qu'on existe, il y a des choses qu'on a réussi, d'autres un peu moins. Mais typiquement, le contenu, c'est un sujet qu'on va développer de plus en plus. Parce que plus tu dépenses de budget sur tes créas et sur tes audiences sur les réseaux sociaux, plus elles s'usent, plus elles se fatiguent et moins les résultats sont bons. Donc on a une problématique en ce moment de génération de contenu à une cadence plus importante que celle qu'on avait dans le passé. Donc ça va devenir, en tout cas notre prestat de création de contenu va devenir un prestat hyper important pour nous.
Ok, mais quand tu parles de contenu, on est d'accord que c'est pas le contenu écrit, ce que vous faites sur le blog, les lead magnets, etc.
Non, quand je parle de contenu, du coup, le terme n'est peut-être pas le bon. C'est vraiment la vidéo.
Ouais, ok.
Les vidéos.
Production vidéo, c'est externalisé. Sinon, après tout le reste, la production de contenu type les calculateurs, les articles de blog, toute la valeur que vous apportez à vos clients, tout ça, c'est conservé en interne.
Exactement.
Ok. Et ça rentre plutôt dans des sujets de branding ou dans des sujets d'acquise ?
C'est à mi-chemin entre les deux. Tout ce qui va être contenu dédié au SEO, ça va être des sujets d'acquisition. Les mots-clés, ça va être banque pour ado, carte de paiement pour ado, compte en banque pour ado. Voilà. Tout ça, c'est vraiment pure acquisition et c'est la team grosse qui s'en occupe. Par contre, le contenu qui va nous permettre d'évangéliser, entre guillemets, qui va nous permettre de parler de l'éducation des enfants, de la relation entre les ados et les parents, ça c'est la brand qui s'en occupe et qui crée un contenu beaucoup plus riche et beaucoup plus travaillé, j'ai envie de dire, que
Oui, là la valeur enfin le contenu et la valeur du sujet, donc vous allez vraiment essayer d'apporter un maximum de valeur au-delà simplement de bien ranker, quoi.
C'est ça.
Ok.
Et d'ailleurs, pour mêler les deux questions précédentes, on passe également par des prestats sur la création de contenu, mais pas que. On utilise il y a 50-50, quoi, du prestat et en interne pour générer ce contenu-là d'évangélisation.
Ok. Toi, est-ce que tu as une semaine un peu type ?
Ça change pas mal, ma semaine type se répartit, j'ai envie de dire, entre j'ai trois gros objectifs moi dans mon poste. Le premier, c'est de donner un peu un cadre et de prévoir ce qu'on va faire dans la semaine ou ce qu'on va faire sur les 6 prochains mois. Donc j'ai le début de semaine qui est dédié à la priorisation, j'ai envie de dire, de ce qu'on fait. Et j'ai deux autres grosses missions, c'est qu'on est que 3 dans l'équipe. Donc chacun a ses compétences et moi je mets encore pas mal les mains dans les affaires courantes. Donc je fais beaucoup d'analyse, la partie data, c'est moi qui la gère. Donc ça me prend pas mal de temps encore. Et j'ai été productif aussi sur la partie contenu, que ce soit la partie SEO ou la partie automation. Donc je suis encore pas mal les mains dedans. Et ça me fait 2/3 de la semaine finalement dédiée à la production et 1/3 de la semaine seulement dédiée à l'organisation, à la priorisation et aussi pour aider et former les deux personnes avec qui je travaille.
Ok. Alors, ton poste, c'est International Growth Manager. On n'a pas encore parlé de l'international.
Non.
Est-ce que c'est le challenge du moment pour PixPay là ?
Non, on anticipe... On a anticipé, j'ai envie de dire, pas mal avec le titre du poste. On est encore focus que sur la France. Et quand on aura atteint en France une pénétration de marché suffisante, évidemment qu'il y a des parents, il y a des ados partout en Europe et partout dans le monde. Donc, si notre produit plaît en France,
il y aura des choses à faire ailleurs.
On y croit fort, ouais, pour qu'il plaise ailleurs.
Ok. Donc là, toi, actuellement, c'est quoi tes plus gros challenges ?
Alors, les plus gros challenges, le premier, ça va être le paid acquisition. Donc, ça va être de scaler là sur nos mécaniques d'acquisition payante. Aujourd'hui, on arrive sur, par exemple, un mois pendant la rentrée à avoir des volumes et des coûts d'acquisition qui sont dans nos objectifs. Ce qu'on a du mal à faire, c'est à renouveler la performance un mois après l'autre. Parce que nos audiences sont les mêmes et nos créas ne changent pas beaucoup. Donc, il y a un gros sujet là-dessus qui est d'être en capacité de reproduire des niveaux de performance élevés. Et de ne pas voir la courbe des volumes de nouveaux abonnés baisser et des CAC augmenter. Le deuxième gros objectif, c'est la viralité. On a un produit qui se partage facilement, qui coûte entre guillemets pas cher et qui peut rapporter avec notre programme de parrainage quasiment un mois ou deux d'abonnement si on parraine un petit peu. Mais on n'a pas réussi à craquer la mécanique de viralité. Donc le challenge, c'est que tous nos clients satisfaits, que ce soit les parents, que ce soit les ados, en parlent à leur entourage, à leurs proches, à leur famille et générer de la croissance via ce levier qui est hyper puissant.
Mmh. Ouais, c'est fou parce que le sujet de la viralité, donc du referral, c'est un sujet sur lequel la plupart des entreprises ont beaucoup, beaucoup d'attentes, on y croit vraiment, on se dit que ça peut vraiment révolutionner une boîte, et puis c'est quand même pas facile, hein.
Ouais, c'est pas évident. Et on a rencontré une autre boîte dans la fintech qui a des notes sur les stores de 4,7, 4,8 sur 5. Et pour autant, la viralité ne représente que 4 à 5% de leur acquisition. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail, c'est pas parce que les clients aiment qu'ils vont le partager. Donc, on se pose la question de est-ce que le programme est suffisamment rémunérateur? Est-ce qu'il est suffisamment simple? Mais on y croit et on bosse beaucoup dessus. Donc, on espère que ça nous aidera en tout cas à diminuer nos CAC.
Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est des mécaniques qui sont assez difficiles à mettre en place parce que c'est un espèce de donnant-donnant qu'il faut vraiment particulièrement bien trouver. C'est je te donne un bénéfice, mais en même temps, je vais te demander un effort en échange. Du coup, il faut vraiment qu'il y ait un alignement parfait entre OK, bon, l'effort que tu me demandes, il est suffisamment juste pour que je me dise le bénéfice que je vais avoir, il est vraiment parfait. C'est pas facile comme
truc. Il faut le faire au bon moment aussi.
En plus.
Il y a vraiment plusieurs dimensions qui s'entrechoquent. Donc, c'est ça qui est difficile à trouver. Le bon moment, la bonne rétribution et un effort minimum pour le client.
Carrément. Très bien. Comment est-ce que tu fais pour progresser au quotidien?
Moi, en tant que growth manager.
Ouais.
Alors, je lis pas mal sur LinkedIn, sur quelques groupes Facebook. J'essaye de me tenir informé sur ce qui se passe dans le milieu du marketing en général. Et sinon, avec en interne, ça va être vraiment du test. Toujours me baser sur les chiffres. Et c'est comme ça que j'apprends, et aussi en sollicitant pas mal de feedback, que ce soit de mes supérieurs ou également des personnes avec qui je travaille.
Ok. Ouais, donc c'est vraiment démarche d'apprentissage et de progression via la pratique et les feedbacks.
C'est ça. Et le feedback est hyper important parce que on est dans un métier où tout ce qu'on fait ne marche pas et beaucoup de choses qu'on fait d'ailleurs ne marchent pas. Mais c'est important d'avoir du feedback pour aussi garder la confiance quand ça va pas et être reconnu quand ça marche. Parce que on teste beaucoup de choses et y a rien de plus agréable que de trouver quelque chose qui fonctionne, mais il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas non plus.
Oui, bien sûr. Ok, si tu pouvais régler le problème de ton choix, que ce soit chez Bixby en interne ou sur ton marché, ce serait quoi ?
Sur le marché, ce serait peut-être le il y a que 15% des ados du coup qui ont une carte en France. C'est une chance pour nous parce que du coup le marché est vierge et on arrive avec un produit qui est adapté. Mais c'est aussi une difficulté parce que on est obligé de se faire connaître et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on existe et pourquoi est-ce que personne n'était là. Donc si je pouvais changer un truc sur le marché, ce serait ça. Ce serait plus de connaissances des solutions qui existent pour gérer l'argent de poche en général et pour gérer les moyens de paiement des autres.
Ok. Ce que tu souhaites, c'est plus de concurrence en fait.
Finalement oui. Et nous, on est contents. On a pas mal de concurrents. On a ces deux concurrents que j'ai cités tout à l'heure, Card, Zelle. Ouais. Il y a Revolut qui est un monstre, mais qui a lancé sa carte pour ados. Et nous, on est contents parce que oui, il y a de la concurrence, mais le marché de toute façon, il est ouvert. Mais ça nous permet surtout d'avoir de plus en plus de connaissances sur les produits financiers pour les ados. Et nous, on est très contents de cet environnement concurrentiel-là.
Ok. Oui, vous le sentez vraiment de manière... vous sentez que c'est quelque chose de sain pour votre business, en fait.
C'est ça.
Ok.
On se partage le travail, entre guillemets, de communiquer.
Évangélisation, ouais. Ouais, c'est ça. Vous vous dites, au moins, on est plus nombreux pour le faire, quoi.
C'est ça. Et en interne, il y a un truc que j'aurais peut-être fait différemment ou changé, c'est vraiment notre approche création de vidéos, création de contenu... multimédia à destination des réseaux sociaux. Et on n'a qu'un an, mais moi je suis arrivé il y a 4 mois. C'est vrai que si je devais changer quelque chose, ce serait peut-être ça, ce serait dès mon premier mois d'identifier cette nécessité de produire du contenu vidéo pour le diffuser, voilà, pour le changer de manière plus fréquente à nos audiences.
Ce que tu dis, c'est que si tu pouvais régler un problème, c'est en fait, et ça rejoint un peu une question que je vais te poser après, mais en fait, s'il y avait un truc que tu ferais différemment, ce serait vraiment faire de l'effort sur de la production de contenu vidéo bien plus tôt dans l'histoire de Bixby, c'est ça ?
C'est ça.
Ok. Ouais, parce que là, tu sens que c'est vraiment c'est quelque chose qui peut avoir de l'impact, mais sur lequel vous avez du retard.
C'est ça. Et ça se fait pas en une semaine.
Ah oui, non. Ouais. En plus, oui. C'est vrai que c'est quand même un investissement en termes de temps, ouais. Ok, je sors des sujets un peu opérationnels concernant Bixby. Pour toi, c'est quoi du bon marketing ?
Au sens global, je dirais c'est du marketing qui s'appuie sur la donnée, qui propose donc qui voilà qui étudie bien ses personas, son marché et qui propose le bon contenu à sa cible. Et je dirais derrière, c'est l'optimisation de la conversion comme troisième pilier. Vraiment s'intéresser à chacune des étapes d'un, quel que soit le funnel, et de s'assurer qu'elles sont optimisées et qu'elles répondent à un besoin précis de nos utilisateurs. Donc données, contenu et optimisation de la conversion.
Tu serais pas grosse, toi, par hasard ?
Si.
Ouais, ça se ressent tout de suite dans ta réponse, quoi. C'est vraiment la démarche grosse de la data, le funnel, c'est hyper hyper carré, quoi.
Bah, je pourrais te parler d'autres sujets, mais je les maîtrise déjà moins.
Ouais, bien sûr.
Le ton d'une marque ou le quel message on passe, quels sont les unique selling proposition. Mais c'est vrai que moi je les travaille pas au quotidien, ces problématiques-là. Donc,
même si tu as quand même mentionné que le contenu était quelque chose d'important et que le contenu se base aussi sur ces éléments-là.
Exactement.
Bien sûr. C'est peut-être le travail en amont, mais ok.
C'est vrai que moi, je le maîtrise moins et mon poste veut aujourd'hui que je m'occupe de l'agro. C'est un peu mon parcours jusque-là.
Ouais, bien sûr. Ok. Comment est-ce que tu expliques ce que tu fais à ta famille?
Je fais de la pub. Je fais de la pub sur Internet. Je travaille pour une banque pour ados qui est super parce qu'elle permet aux parents de tout contrôler, même de fixer des limites. Et elle permet aux ados de kiffer parce qu'ils peuvent faire plein de choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Ils peuvent dépenser en ligne, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent dans les magasins et ils peuvent jouer, acheter des jeux, choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant.
Ok, bah écoute, c'est une super manière de t'expliquer. Je fais de la pub sur Internet, ouais, c'est vrai. Ça m'est déjà aussi arrivé de décrire mon métier de cette façon-là, donc je m'y retrouve totalement. Ça fait pas longtemps que tu es chez PixP, comme tu l'as mentionné, mais quand même, pour cette dernière... Et puis tu nous as quand même donné un petit peu un élément de réponse avec le contenu vidéo, mais je pose quand même ma dernière question. Si tout était à refaire chez PixP, là, tu ferais quoi différemment?
Oui, c'est vrai que le contenu vidéo est une chose. Finalement, enfin, pas grand chose, parce que déjà je suis arrivé il y a vraiment pas longtemps, et si je prends un peu plus de recul sur les 12 mois quasiment d'existence, on est allé plutôt vite. PixP s'est staffé sur pas mal de compétences, que ce soit marketing, tech, opérations. Et y a pas grand chose que je ferais différemment, si ce n'est de continuer à tester. Et pour tester, il faut du budget et du contenu.
Ok. Donc tu recommandes la vitesse.
Je recommande la vitesse, ouais. On parle de concurrence. La concurrence, c'est sain, mais il faut quand même aller vite pour pas être dépassé.
Bien sûr. Ok. Bon, écoute, Jean, c'était ma dernière question, donc merci beaucoup pour toutes ces réponses. On a appris plein de choses. Si on souhaite en savoir un petit peu plus sur PixP, c'est simple, faut taper PixP sur Internet. Mais si jamais on a des questions ou ce genre de choses, on peut te contacter sur LinkedIn.
Bien sûr. Ouais.
Ok, super. Bon, Jean, je te souhaite bon courage pour la suite avec PixP. Il y a de gros challenges. Le marché a créé, la concurrence arrive, donc j'imagine que c'est pas les défis qui manquent. Donc, bon courage à toute la team et puis à toi là-dedans. Et puis on se dit à très bientôt.
À très bientôt, merci pour l'invitation.